je suis heureux de parler d'un sujet qui va nous permettre de dépasser les discours habituels à la fois sur l'islam et sur, tout de suite je le dis, non pas l'Algérie, on va parler de l'Algérie, mais moi je ne parle jamais d'un seul pays du Maghreb, parce que nous avons une histoire, nous avons une culture, nous avons des parcours, nous avons une anthropologie culturelle qui fait que de Benghazi, la frontière entre la Libye et l'Égypte, jusqu'au Maroc, c'est un même espace historique. Ce sont les nationalismes qui ont creusé et rigidifié les frontières politiques qui ont été mouvantes durant toute l'histoire de cet espace historique. Et elles se sont rigidifiées, elles sont devenues, hélas, des rideaux de fer depuis que nous sommes indépendants. Voilà déjà une question considérable sur laquelle il faut s'interroger au lieu de plonger directement et de dire quelle est l'évolution et les rôles de l'islam en Algérie. Mais ce que je vais dire sur l'Algérie, je peux le dire sur tous les pays qui se réclament de l'islam aujourd'hui, de l'Indonésie jusqu'au Maroc. Parce que tous ces pays-là ont vécu les mêmes épreuves historiques qui ont fait qu'ils ont été colonisés. Car on n'est pas colonisé quand on est puissant, quand on est fort, quand on peut se défendre. On est colonisé quand on entre dans le pays sans coup faire rire. Parce que la population du pays mène une vie d'innocence, innocence intellectuelle, innocence culturelle, innocence religieuse. Innocence veut dire qu'on ne se pose pas des questions en profondeur. De même que l'enfant, à son âge, ne peut pas poser de questions, eh bien, les peuples qui n'ont pas eu la chance de traverser des luttes culturelles qui enrichissent l'expérience historique restent au niveau du non-questionnement. Pas de questions. Et je vous avoue que j'ai été orienté, c'est moi-même qui me suis orienté pour faire des études arabes et islamiques, précisément parce que je suis algérien, je suis né en Kabylie. J'ai grandi, comme vous le savez, dans une culture orale, pas d'écrit du tout. Toute ma famille ne parle que le Kabylie. Maintenant, ça change un peu pour les jeunes générations, mais moi, j'ai grandi toute mon enfance, toute mon adolescence, dans une culture orale. Je n'ai pas connu l'écriture. Bien sûr, je l'ai connu parce que j'ai eu la chance d'aller dans l'une des premières écoles créées en Algérie, à Taourit Mimoun, en 1880, par Jules Ferry. Oui. À Taourit Mimoun, à Beni Yemine. Oui. C'est un hasard. Je ne sais pas pourquoi on a choisi, je ne peux pas rendre compte de ça. Voilà, je ne peux pas rendre compte parce qu'il n'y a pas d'histoire. Même de ce fait-là, on ne peut pas rendre compte. Donc, tout de suite, je vous le dis, j'ai développé une stratégie, une vraie stratégie intellectuelle, à partir du cas algérien, mon pays. Car j'ai constaté précisément que nous venons d'une culture orale et que nous étions dans une culture orale au XIXe siècle et que les lieux d'écriture, les bibliothèques qui existaient en Algérie, au Maroc, en Libye, dans l'espace maghrébin, elles existaient chez quelques familles, les livres étaient enfermés dans des caisses, il n'y avait même pas de bibliothèque. Et la preuve qu'il n'y avait pas de bibliothèque, c'est un historien égyptien, Abdelrahman al-Jabarti, qui est allé visiter la bibliothèque construite et créée par Napoléon lorsqu'il est arrivé en Égypte. Et cette bibliothèque a été tout de suite remplie de livres. Et il dit son étonnement lorsqu'il est entré dans la salle de lecture devant des gens avec des chaises, avec des tables pour écrire, etc., etc. Innocemment, un regard innocent qui découvre quelque chose. C'est notre cas. C'est notre cas. Nous avons vécu toujours à même le sol. Nous mangeons à même le sol. Nous causons à même le sol. C'est notre niveau de civilisation et de culture. Et donc j'ai décidé de chercher le pourquoi historique, le pourquoi intellectuel, le pourquoi religieux de la situation du Maghreb, qui par ailleurs a connu tout ce que les peuples de la Méditerranée ont connu, tout autour de la Méditerranée. Pendant plus de 6 siècles, nous avons connu Rome. Et Rome, ça n'est pas rien. C'est Rome et la Grèce qui ont fait l'Europe. Et c'est parce que l'Europe a pris en charge avec passion le droit romain, la République romaine, la culture latine, héritière elle-même de la culture grecque, avec tout ce que Rome avait déjà réalisé tout autour de la Méditerranée. Par exemple, les grandes voies romaines pour la circulation. C'est une donnée de civilisation essentielle. Quand je pense à nos petits sentiers de Kabylie, eh ben oui, moi j'ai vécu, comme je le dis toujours, au pas de l'âne. C'est la vitesse du pas de l'âne. Je suis obligé de suivre l'âne quand je vais au champ et que je rapporte du champ des petites choses pour subsister. Autarcie de la Kabylie. Et c'était dans les années 40 et les années 50. Mais un grand nombre d'entre vous, vous sentez très bien de quoi je parle. Il faut voir cela en tête et le mettre en langage. Une des faiblesses, précisément après les indépendances, c'est que nous avons immédiatement cessé de mettre en langage la réalité de notre culture et de notre civilisation. Ça, on peut l'appeler quand même une civilisation. Bon, elle n'a pas tous les moyens de faire ce que d'autres ont fait. Il y a une civilisation. Il y a un ordre social, par exemple, pour l'ordre social, là aussi, toujours pour la Kabylie, ma mère m'obligeait à l'âge de 13 ans d'aller assister à la réunion hebdomadaire de la Jma qui parle de tous les problèmes municipaux. Et elle me disait, parce que mon père n'était pas là pour aller représenter la famille, ma mère me disait, il faut qu'il y ait un nom de la famille Harkoun pour que les gens te voient, et puis tu vas écouter ce qu'ils disent, et comment ils disent ça. Voilà, je vous rapporte cela. Ça, c'est la socialisation qui commence déjà à cet âge-là. Et donc, au lendemain des indépendances, nous avons effacé le peu que nous conservions des mémoires orales, car il y en a plusieurs. Chaque groupe social a sa mémoire orale. Et si c'était comme ça dans les années 40 et 50, que dire du 19e siècle, 1830, quand les Français arrivent dans ce pays? Et encore une fois, n'oublions pas que ce que nous disons pour l'Algérie, nous le disons pour toute la sphère arabe, turque, iranienne, et vous allez dans l'Asie, et à plus forte raison de notre Afrique, le continent africain, où il y a aussi l'islam. Donc, c'est cela d'abord qu'il faut avoir en tête. Et cette rupture brutale, avec le peu que nous sommes, et qui était quand même important, parce que le peu que nous avons, les codes culturels fonctionnaient de telle manière que, toujours dans la Kabylie, nous n'avons jamais connu un gendarme pendant toute la durée de la France. Pas de gendarme, pas de police, pas de juge de paix, rien du tout. Tout est fait dans cette petite Jemaa. Les conflits sont résolus là. Tout est fait en autarcie. 40, les années 40, ça s'arrête évidemment lorsque la guerre de libération commence. Ceci donc pour la question de le regard qu'il faut porter sur le Maghreb. Maintenant, il y a le mot islam dans le titre. Évolution de l'islam et rôle de l'islam. Il n'y a pas évolution. Il y a péripétie. Il y a vicissitudes incontrôlables qui sont imposées de l'extérieur et qui bouleversent justement ces codes tranquilles mais qui nous assuraient une sécurité, on ne s'entretuait pas, qui nous assuraient un respect de l'autre. Et donc ce respect se traduisait par la paix sociale dans le village et entre les villages. Donc l'islam, qu'est-ce que c'est au Maghreb? Voilà la question. Dès qu'on dit l'islam, on présuppose que nous connaissons ce dont nous parlons. Que l'islam, tout le monde le connaît pas. Il suffit d'être musulman pour... Et je vais dire, mais vous, Français, vous ne connaissez rien à l'islam, vous n'avez jamais rien connu à l'islam, donc vous ne pouvez pas le respecter, etc., etc. Et tout le bruit que nous faisons depuis les indépendances pour construire des identités nationales fondées sur la personnalité arabo-islamique sont fondées sur l'ignorance. Ignorance de l'islam comme religion. Ignorance, par exemple, demander à quelqu'un la théologie, qu'est-ce que c'est? Personne ne sait ce que c'est que la théologie. De quoi s'occupe-t-elle? Il y a une théologie islamique. Il y a des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi. Mais qui parle de théologie en Algérie depuis l'indépendance? Ou au Maroc, encore une fois. Il faut généraliser toujours. Bon, je veux dire l'Algérie, mais il faut toujours, encore une fois, généraliser. Qui sait ce que c'est que l'exégèse du Coran? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot exégèse du Coran? Qu'il y a des règles, qu'il faut une préparation, il faut tout un... Et le droit musulman, que l'on appelle la charia, pour effacer même le côté positif du droit, on va l'appeler la charia pour créer la fiction que ce droit positif est divin. Et donc il faut obéir et se taire. Et personne ne peut y toucher. Même s'il y a un parlement de pacotille, formel, eh bien le parlement ne peut pas toucher. C'est divin, c'est là. Alors on va l'appeler la charia, on n'entend plus parler du fiqh. Alors que le mot fiqh, au temps où on fabriquait du droit, on l'appelait le fiqh, on ne l'appelait pas, on ne l'a jamais appelé la charia. Ça c'est pour anesthésier les citoyens qui viennent de se libérer du colonialisme. Et jusqu'à présent, cette ignorance ne fait qu'augmenter. Donc c'est quelque chose que nous ignorons. En 1972, de retour de Tlemcen, où j'avais assisté au fameux séminaire de la pensée islamique, que les Algériens connaissent, et qui a commencé en 1969 et a duré jusqu'à la deuxième guerre civile, c'est-à-dire 91-92, je revenais donc de Tlemcen, où chaque fois, j'allais assister à tout le séminaire qui durait longtemps, 10 jours, c'est un vrai séminaire. Et où l'on invitait les oulémas de tout du monde entier, même des Japonais, des Chinois, pour étaler leur ignorance partagée. Oui, je le répète, mais vous voyez ma patience. J'ai résisté pendant 20 ans, 10 jours, Et plus de 10 heures par jour. Et j'écoutais et je notais les ignorances avérées, répétées avec arrogance et certitude, que personne ne vienne signaler qu'il y a ignorance. Et donc, revenu de là, j'ai écrit un article qui s'appelle « Mode de présence de la pensée arabe en Occident musulman ». L'Occident musulman, c'est précisément le Maghreb, auquel il faut ajouter l'Andalousie, l'Espagne, en ce temps-là, la Sicile, etc. Mode de présence. Vous voyez, c'est une interrogation. Je veux savoir comment cet islam a pénétré et s'est répandu dans tout cet énorme espace. Et comment les populations berbérophones qui ne connaissaient pas l'arabe en sont venues à se convertir à l'islam. Par quel processus? Et si vous dressez la carte des voies de transmission, des lieux de transmission de l'islam et donc de la langue arabe dans l'ensemble de cet espace, siècle après siècle jusqu'à nos jours, vous découvrirez des choses qu'on n'enseigne jamais. Toujours pour revenir à la Kabylie, mais dans les Aurès c'est la même chose, mais dans la classe marocaine c'est la même chose, dans le Rif c'est la même chose. Puisque je vous ai dit c'était la culture orale, on ne voyait jamais un livre écrit en arabe. C'est pas parce que les Français nous l'interdisaient, c'est parce qu'on ne peut pas lire l'arabe. Et on ne l'enseignait pas. Et avant la colonisation, il n'y avait pas plus de livres. Ce sont les marabouts, les confréries, qui viennent enseigner en langue kabyle les données élémentaires du rituel musulman pour pouvoir faire la prière et faire des choses. C'est tout. Ça se limitait à ça. Théologie, on ne connaît pas. Les fondements du droit, on ne connaît pas. L'exégèse, on ne connaît pas. L'histoire du texte coranique, on ne connaît pas. Et cela, encore une fois, a traversé les siècles. Et ce n'est pas la colonisation qui a créé cette situation. Ce que la colonisation a créé vis-à-vis de l'islam, c'est la transformation ou l'appui que prennent les populations sur une identité qu'ils qualifient de musulmane, pour pouvoir s'opposer, évidemment, à une occupation et à un traitement qui a été extrêmement vécu, puisqu'il s'agit d'un système colonial, ce qui est tout à fait normal. Mais cela ne signifiait pas qu'on se mettait à apprendre l'islam, à acquérir une culture musulmane, à acquérir surtout la manière dont fonctionne ce que j'appelle, et j'ai écrit un gros bouquin sur la raison islamique. Qu'est-ce que c'est que la raison islamique? Comment fonctionne la raison dans les contextes sociaux, culturels, musulmans? C'est ça, la raison. Je m'interroge sur la raison elle-même. Pour mesurer les niveaux de rationalité de cette raison, pour me permettre d'avoir, avec l'islam, un rapport critique pour que j'apprenne à me poser des questions théologiques. La question théologique, par exemple, comment Dieu se présente dans le texte coranique? Car il ne fait que se présenter, il parle tout le temps de lui. Le nom Allah intervient 1697 fois. 1697 fois. Rien que la forme Allah, sans compter les noms qu'il se donne, ce qu'on appelle les attributs. Donc tout le Coran ne parle que de ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Comment il se présente? Comment agit-il? Comment parle-t-il? Comment se comporte-t-il vis-à-vis des hommes auxquels il adresse cette parole? Il entre en communication. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il suffit que je dise Allah. Ça me suffit. Évidemment, vous me direz, il y avait des savants, il y avait des gens qui s'occupaient du droit, il y avait, certes, ça existait dans des villes comme Fès, dans des villes comme Tlemcen, dans des villes comme Bougie, etc. Mais c'est extrêmement limité, même à l'intérieur des villes. Tous les habitants de Tlemcen n'accédaient pas à ce qui se passait dans la mosquée ou dans la zaouïa. Et ceux qui allaient dans la mosquée, dans la zaouïa, et qui possédaient l'arabe, quel islam enseignait-on dans notre Maghreb aux étudiants des zaouïas? Voilà une question. Est-ce qu'on en enseignait la philosophie dans les zaouïas au Maghreb, comme on l'enseignait à Bagdad, à Shiraz, à Isfahan, etc., en Orient musulman? Est-ce qu'on enseignait les diverses écoles théologiques qui ont existé dans l'islam en Orient? Eh bien, la réponse, c'est non. On n'enseignait pas la philosophie, parce que la philosophie est rejetée par les fuqaha malikites, parce qu'elle est considérée comme une science étrangère et dangereuse pour l'islam. Et pire que cela, les fuqaha étaient tellement jaloux de leur pouvoir qu'ils ont fait en sorte que les autres écoles juridiques n'étaient pas représentées. Il y avait une concurrence féroce entre eux. Et donc, on ne va pas connaître les autres écoles juridiques qui ont existé. Vous voyez les modes de présence de l'islam. Il y a la censure. Une censure qui est causée par la rivalité professionnelle. Et ça, nous l'avons encore partout. Hein. C'est pas rien qu'eux qui font ça. Mais vous voyez les conséquences pour la présence de l'islam en tant que pensée et culture. Ça n'est pas communiqué. Même Razali, qui est un très bon musulman, sunnite, orthodoxe, qui a défendu l'orthodoxie, tout ce qu'on veut. Eh bien, il a écrit un livre que tous les musulmans, normalement, peuvent lire sans danger, Yahya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses. Mais ce livre a été brûlé en Andalousie et au Maghreb par les fuqaha malikites. Voilà la réalité des choses. Et ça, je le répète, ça n'est pas le colonialisme. Voilà pourquoi il faut absolument nous laver la tête pour ne pas mettre sur le colonialisme une situation intellectuelle, culturelle, politique, sociale, qui a existé sans interruption depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. 13e siècle, on est loin, loin de 1830. Car il y a eu, après le 13e siècle, beaucoup de phénomènes historiques que je n'aurai pas le temps de vous expliquer en une soirée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous appelons aujourd'hui le sophisme, tout le monde parle du sophisme, et il est à la mode. Il est à la mode, alors qu'en Algérie, ça il faut le dire, c'est dans le sujet. Au début de l'indépendance et pratiquement jusqu'à la mort de Boumediene, les zaouïas, il fallait les éliminer. Les marabouts, c'est des collaborateurs. Il faut les éliminer. Et il y avait par ailleurs la culture socialiste qui était appliquée avec la révolution agraire. Car il y avait deux axes idéologique qui fonctionnait en même temps. L'axe idéologique de la République démocratique et populaire, comme la Roumanie, etc. Et puis l'axe de la réactivation, non pas de l'islam en tant que culture, non pas des écoles de pensée musulmanes dans le temps du pluralisme intellectuel à l'intérieur de l'islam, non, l'islam ritualisé, l'islam des performances rituelles collectives. Et ça, ça a un sens. C'est la mobilisation par la mosquée. Et un des phénomènes importants, justement, sociologiquement parlant, c'est la poussée des mosquées comme des champignons au lendemain de l'indépendance. Aussi bien des initiatives privées que des initiatives officielles. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces mosquées? Quels sont les contenus des sermons qui sont délivrés dans ces mosquées? L'ignorance institutionnalisée. L'ignorance cultivée dans des institutions, comme la mosquée, qui est une institution officielle. Et le pire, c'est qu'elle est parallèlement cultivée dans les écoles primaires et dans les lycées. Surtout sur le plan, justement, de tout ce qui concerne l'islam. Et ici, il faut généraliser. Ça n'est pas seulement l'Algérie qui a fait ça. Ça se passe comme ça partout. Partout. Donc le problème de l'éducation, du système éducatif, dans tous les pays musulmans, après les indépendances, et sous la direction politique des partis État, avec un trait d'union, un seul parti État, il faut les appeler comme ça, et mettre le parti le premier, pas l'État, car l'État est la propriété du parti unique. C'est lui qui décide politiquement de ce que l'État va exécuter. Et oui, ça c'est juridique. Or, les cadres du parti unique, nous connaissons leur niveau de culture. Un des grands problèmes aujourd'hui qui se pose à toutes nos sociétés, c'est de mobiliser un grand nombre d'historiens formés au métier d'historien, car c'est un métier. Pour faire de jolis meubles, il faut être un bon menuisier. Mais pour enseigner dans l'école ou au lycée, n'importe qui peut y aller, avec des diplômes bidons. Et ouais, ouais, ouais. Et oui, je fais toujours cette comparaison. Le menuisier apprend son métier. L'instituteur, on peut constater, tel que les choses ont fonctionné, la formation des maîtres, comme nous disons, même en France aujourd'hui, la formation des maîtres, elle est loin d'être ce qu'elle doit être. Or, au début de l'indépendance, quel était l'état linguistique de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, au début de l'indépendance? Carte linguistique. Il faut tracer une carte linguistique de cet espace maghrébin pour se rendre compte qu'est-ce qui se passe. Eh bien, la carte linguistique, encore en 1960, nous montrait que les régions berbérophones étaient encore là et représentent une proportion importante dans la société. Assez importante pour que, normalement, on s'en préoccupe. Et on raconte des histoires en Algérie, quand ils ont arabisé les signes du code de la route, et qu'ils ont mis tout en arabe, il y avait beaucoup d'Algériens, hein, même ceux qui parlent l'arabe, et qui n'écrivent pas l'arabe. Et donc, voilà une donnée linguistique. Deuxième donnée linguistique. L'arabe, bien sûr, est là. Mais quel arabe? Quel niveau de langue arabe était présent dans cet espace? C'est l'arabe dialectal. L'arabe de tous les jours. Que tout le monde comprend. C'est la langue de tous les jours. Ça n'est pas la langue écrite. Car dans l'arabe, et ça depuis pratiquement depuis le Coran a instauré l'écriture et donc la nécessité d'écrire et de lire. Mais cette nécessité d'écrire et de lire n'a pas été développée par des États responsables, etc. Et pire que cela, quel était l'état du dictionnaire arabe couvrant le champ scientifique et intellectuel. Voilà, ça c'est une question cruciale. Car on a construit des universités, on a construit des lycées. Et quand on va arabiser l'enseignement, et qu'il y a, je veux enseigner l'histoire à mes élèves, et quand j'enseigne l'histoire aujourd'hui, j'ai besoin du vocabulaire sociologique, j'ai besoin du vocabulaire anthropologique, j'ai besoin du vocabulaire de la psychologie sociale, j'ai besoin de plusieurs disciplines, car l'histoire, ça n'est pas de dire en telle date, il y a eu une bataille, etc., comme on le faisait, et comme on le fait encore aujourd'hui. Ça, c'est pas de l'histoire. L'histoire est pluridisciplinaire. Et c'est une discipline essentielle, justement, pour sortir de l'ignorance, de son propre passé. Beaucoup de mes livres sont traduits en arabe, mais la traduction ne marche pas, même si le traducteur est compétent. Il trouve des équivalents en arabe, mais il y a des équivalents qui ne fonctionnent pas. Par exemple, anachronisme. Comment dire anachronisme ? Or, la pensée islamique vit dans un anachronisme perpétuel. C'est sa nourriture quotidienne et substantielle, tout le temps. Car quand on vous dit que la démocratie est dans le Coran, c'est un immense anachronisme. C'est une insulte à l'esprit. Mais on le dit gaiement, sérieusement. Vous n'allez pas aller dire ça. Car si vous dites le contraire, vous insultez le Coran. On en est arrivé là. Donc l'état de la langue, qui est l'instrument officiel, de la langue officielle, et surtout pour l'école. En Algérie, je salue la mémoire de l'Ashraf, Mustapha l'Ashraf, qui a eu le courage, je me rappelle, d'écrire trois longs articles dans le Mujahid et qui a expliqué ça. Ben, il a été remercié quelques semaines après, Mustapha l'Ashraf. Et c'est le seul qui a eu ce courage avec une culture pour argumenter. Car il y en a qui ont le courage, mais pas la culture pour argumenter. Par exemple, le vocabulaire philosophique. Si j'enseigne la philosophie de Farabi à mes élèves, ils ne peuvent entrer dans la philosophie de Farabi ni en langue arabe, ni en langue française, ni dans aucune langue. Et ça, c'est le patrimoine arabe. Et le problème n'est pas résolu jusqu'à présent. Parce que vous allez dans les bibliothèques européennes, vous avez un dictionnaire de sémiotique, un dictionnaire de linguistique, plusieurs. Et le pire des pires, toujours sur la langue, jusqu'à nos jours, la langue arabe ne dispose pas d'un dictionnaire historique de la langue. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça signifie pour une langue vivante de ne pas avoir un dictionnaire historique, à commencer par la lecture du Coran. Il faut un dictionnaire pour le Coran tout seul. Je le réclame depuis 60 ans. Ce n'est pas faute d'avoir des experts qui savent ce qu'il faut faire. Je peux construire, avoir une équipe, et distribuer le travail et faire le dictionnaire. Je peux le faire. Je ne suis pas le seul à pouvoir le faire. Il y a des collègues tunisiens, marocains, qui peuvent le faire, égyptiens, mais ça ne se fait pas. Alors là, c'est le problème des problèmes dans le monde arabe. Parce que dans le monde arabe, on a créé en 1962... l'Académie arabe de Damas. Et on a créé l'Académie arabe du Caire, l'Académie arabe de Jordanie, l'Académie arabe d'Irak, le nationalisme, le pire des ennemis de la culture et de l'esprit. Car ce qu'il fallait faire, c'est de constituer des équipes qui doivent travailler ensemble. Parce que le problème est le même. Ce n'est pas l'Italie, l'Espagne, la France, etc. là où il y a une base commune pour tous les Arabes, ils ne l'exploitent pas. Alors, vous voyez donc l'importance de la langue. Et qu'est-ce qui va se passer après l'indépendance? Quel type d'enseignement va-t-on donner après l'indépendance lorsque la langue ne vous donne pas ce dont j'ai absolument besoin? La situation coloniale. Lorsque la France débarque en 1830, quel était l'état de la pensée, de la langue française, de la culture française, des institutions politiques françaises en 1830? Quel était l'état de la paysannerie française en 1830? Quel était l'état de l'économie et de l'industrie en France en 1830? Il faut poser toutes ces questions. Parce que la France va venir avec ses atouts et ses faiblesses, ce qu'elle n'a pas encore. Et la colonie de peuplement, nous savons ce que c'est. On en voit des gens précisément qui, chez eux, ne vivent pas bien. Ils vont vivre dans la colonie, mais donc ils vous apportent peu. Et ils ne vont pas vous respecter automatiquement. Ils ne savent rien. Ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, l'épistémé de la pensée française. C'est-à-dire les cadres de la connaissance dans laquelle évoluaient tous les Français, sans exception. Et quel était, de l'autre côté, l'épistémé du Maghreb? Mais c'est à partir de là qu'il faut partir. Au lieu d'échanger toujours des insultes et des polémiques et des leçons de morale. Je ne dis pas que le colonialisme est quelque chose de bien, je ne le dirai jamais. Le mal héréditaire qui habitait les Français et tous les Français pour aller coloniser les autres. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Colbert a construit le code juridique pour gérer l'esclavage aux Antilles. Les Français qui étaient dans les Antilles avaient besoin des esclaves pour la canne à sucre. Et Colbert fait un code pour maintenir l'esclavage. La Convention abolit l'esclavage au XVIIe siècle. Tout le monde se remue là-bas dans des... Comme pour l'Algérie, tout le monde se remue comment... C'est la même chose. Napoléon rétablit l'esclavage aux Antilles en 1802. Et il faut attendre la Deuxième République de 1848 pour que de nouveau on abolisse l'esclavage. Et bien que l'esclavage soit aboli, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les Antilles. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça la vraie difficulté et le véritable obstacle. Face à face. Et je prends un exemple absolument tragique, au sens de la tragédie de l'esprit humain. Les deux figures de la première conquête, la figure de Bugeaud et la figure d'Abdelkader. Moi qui connais, j'ai beaucoup travaillé sur Abdelkader, c'est une figure merveilleuse et exceptionnelle dans la société algérienne. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Et c'est une exception d'un parcours et d'une transmission. Il avait dans ses caisses, chez lui, avec son père, les Futuhat al-Makkiya de Ibn Arabi. Voilà. Et comme il avait du temps, comme tout le monde avait du temps en ce temps-là, là-bas, il a pris les Futuhat, il a plongé dedans. Et ça a donné un joyau humain qui sait ce que c'est que le pardon, qui sait ce que c'est que le pardon spirituel, qui sait ce que c'est que l'intimité spirituelle avec l'autre. Il le sait, il le vit. Et voilà que cette figure est obligé par des circonstances terribles d'affronter une armée française qui, de son côté, est dans l'épistémé positiviste. On vient de rejeter la religion, de donner un coup de bâton et un coup de balai à la religion chrétienne. Dieu est parti, il n'est plus là. On va faire sans lui. Et ce qui va le remplacer, la religion de la République, une et indivisible, comme Allah. Ben oui, Allah, il se présente comme ça. Hein. C'est terrible que les Français disent encore cette expression, alors que le pluralisme nous submerge de partout et nous défie avec justement une multiplicité que nous ne pouvons pas maîtriser, que nous ne pouvons pas faire fructifier dans notre société, faute de connaissances, par ignorance toujours. Je parle de la France là, car l'ignorance est partout, il y a des niveaux évidemment d'ignorance, mais là il y a de l'ignorance, et puis il y a un cataclysme qui vient de se passer précisément en France. Un cataclysme culturel, puisqu'il s'agit d'une rupture violente avec les fondements de la légitimité politique qui, jusqu'en 1789, était basée sur la parole de Dieu, sur le christianisme, la légitimité religieuse. Le roi est sacré à Reims pour venir occuper ses fonctions de roi. Donc la religion était là, avec son rituel, avec son credo, avec ses cérémonies. Mais du jour au lendemain, on coupe la tête à Louis XVI, on lave tout et on passe à un régime qui va donner très vite ce qui a eu une grande force au XIXe siècle, le positivisme scientiste et historiciste. Ça va loin. Mais ça va avoir quand même un rôle d'éducation pour la société française. Car ça instaure un débat précisément, qui est un débat précieux. Il est précieux parce qu'il intéresse la condition humaine. Ce n'est pas seulement pour la France, ce débat-là. C'est le débat sur les droits de l'homme. Et comment assurer politiquement, par un régime politique adéquat, les droits de chaque citoyen. Ça, c'est une révolution que tous les peuples attendent encore et réclament encore. Mais psychologiquement, les gens qui vont aller en Algérie pour la conquête ne pensaient pas les choses comme je suis en train de vous les expliquer. Et d'ailleurs, même maintenant, il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas expliquer les choses comme je suis en train de vous les expliquer. Car il faut avoir fait des études de théologie politique et de philosophie politique et comparer les deux pour soutenir un tel débat. Or, les Français ne connaissent ni la théologie politique, ni la philosophie, sauf évidemment ceux qui sont au sommet. Et pour vous dire, par exemple, vous donner un exemple de ce que je suis en train de vous expliquer, la rencontre dans un espace social comme l'Algérie en ce temps-là, au XIXe siècle. Alexis de Tocqueville, que les Français admirent, et que tous les politologues, encore aujourd'hui, citent comme une grande autorité. Et effectivement, il a écrit d'un livre sur la démocratie américaine qui venait de naître, qui est admirable dans l'analyse politique et justement dans l'élucidation d'une légitimité politique qui embrasse et donne la possibilité politique de faire appliquer les droits de l'homme. Eh bien, ce même personnage, cette même tête si intelligente, était pour massacrer les Algériens. Il l'a écrit. Je l'ai même cité dans mon grand livre sur l'islam depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Vous pouvez trouver la citation. Et je n'ai pris qu'un petit morceau, mais c'est sa position vis-à-vis du phénomène de la colonisation. Pour vous dire le vis-à-vis terrible, le vis-à-vis insupportable entre la mentalité des soldats de la colonisation et la mentalité qui va se développer dans le système colonial, bien qu'il ait des références à la culture française, à la révolution, aux valeurs, etc., il va y avoir cette rupture et cette cassure. Et ça, on ne l'enseigne pas encore. on ne le dit pas encore. Car comme je le dis quand même, moi je ne fais pas de polémique. Au contraire, j'éteins toutes les polémiques. Et je mets le doigt sur les limites de la raison humaine. Où que vous soyez, c'est notre limite à tous. La raison humaine est limitée. Au XIXe siècle, il y avait deux grandes voix, celle de Jamal Din Afrani et celle de Mohamed Abdou, qui défendaient l'idée du réformisme, réformer l'islam. Et Mohamed Abdou en particulier, mais Afrani aussi, mais Mohamed Abdou connaissait mieux que Afrani les grands textes de la pensée islamique classique. Et donc ce qu'il faisait avait une plus grande portée. Il a fait son possible parce qu'il a voyagé, il a vu ce qui se passait en Europe et tout cela. Et donc il a essayé d'introduire une rationalité pragmatique. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu bousculer les croyances musulmanes. Il n'a pas voulu, il voyait très bien que c'est impossible d'ailleurs, et il a essayé de prendre des positions toujours d'ouverture. Et il avait par exemple cette position qui était extrêmement importante, qui consiste à dire que dans la théologie musulmane, aucun musulman ne peut imposer à d'autres musulmans son interprétation d'un texte coranique ou d'un hadith. Ça, c'est précieux. Ça, c'est du Luther. C'est du Luther. C'est du Luther. Luther qui, à l'intérieur de l'Église au XVIe siècle, dit à la hiérarchie catholique que tous les fidèles chrétiens, et c'était un chrétien, il parle de l'Église, a le droit d'examen des Écritures. Mais dans la théologie musulmane, c'était le pluralisme. Il y avait des écoles, chaque école défendait ses positions, elle peut gagner, elle peut être écoutée ou ne pas être écoutée, ça dépend de la réaction des gens qui entendent ces débats et qui participent à ces débats. Voilà comment ça a marché dans les quatre premiers siècles de l'Égypte. Et c'est pour cela que je dis que l'islam est théologiquement protestant. Mais il est politiquement catholique. Catholique, ça ne veut pas dire qu'il croit dans la résurrection de Jésus, mais ça veut dire que le pouvoir politique s'exerce verticalement, il descend d'en haut vers le bas. Et on ne peut pas y échapper. Tandis que pour les protestants, ils sont nés avec la modernité. Vous voyez ? Et donc l'islam... Et c'est ça que Mohamed Abdou défendait.
Oui, mais il y avait l'islam des Zawiyas.
Alors, il y a, évidemment, mais l'islam des Zawiyas, ça commence, comme vous le dites, lui, il dit au 15e, moi, je vous ai dit au 13e siècle. Les Mérinides, au Maroc, au 13e siècle, ont commencé à créer des madrassas, et des madrassas où on formait, justement, des frères, comme on dit au Maroc, c'est-à-dire des petits juristes qui ne s'occupaient pas du tout de discuter le droit ou de faire des normes juridiques, etc., de légiférer, mais ils commentaient les textes anciens, ils les répétaient et ils apprenaient des bribes de droit, et ils formaient aussi des missionnaires qui vont aller dans l'ensemble du Maghreb pour enseigner l'islam, justement, comme je vous l'ai expliqué au début, parce que dans l'ensemble du Maghreb, c'était la culture orale, et on avait besoin, effectivement, de petits instituteurs formés dans ces madrasas. Et ces petits instituteurs vont enseigner et vont donner naissance au phénomène des confréries religieuses. Et les confréries religieuses joue un rôle politique important que ne pouvaient pas jouer les États qui essayaient de centraliser le pouvoir. Et pourquoi à partir du XIIIe siècle? Parce que le califat, qui est un centre politique à Bagdad et un symbole politique, a été aboli en 1258. Et donc, politiquement, Comment le remplacer? Impossible. Et le pouvoir se disperse partout. Et rien qu'en Algérie, regardez combien de confréries nous avons, Amaria, Raderia, etc. Et vous les trouvez partout. Et ce sont ces confréries qui vont prendre et exercer le pouvoir, encadrer politiquement et socialement et religieusement des régions. Alors là, la confrérie, d'ailleurs, il va y avoir une bagarre entre eux aussi, parce qu'ils vont se disputer leur influence, essayer de l'étendre exactement comme les États impériaux, ça c'est humain. Et donc, il y a cet islam populaire, cet islam qui fonctionne avec la culture orale et qui ne va pas avoir accès à l'écriture, c'est-à-dire à la pensée savante. À la pensée savante. Sociologiquement, c'est cet islam-là qui va dominer. Parce qu'il n'y a pas de centre politique pour essayer de créer justement une politique qui couvrirait tout le territoire. Et ça, en Algérie, on n'a jamais eu un centre politique durable. Ça aussi, c'est un trait qui distingue l'Algérie, en particulier du Maroc. Parce que le Maroc a gardé l'État. Cet État n'a pas non plus réussi à toucher toute la population marocaine, toutes les tribus marocaines. Il y a le Bled Siba et Bled Mars. Donc il y a le pouvoir politique, là, qui est toujours faible, partout faible. Et cette faiblesse a été utilisée par les confréries pour prendre eux-mêmes en charge les populations. Alors, on peut faire une carte des confréries et de leur installation et des frontières. Ils ont des frontières pour délimiter les régions des Amaria, les régions des Raderia, etc.
Et comment la colonisation va justement...
Alors, la colonisation, quand elle arrive, elle voit qu'effectivement, les chefs de confréries exercent un vrai pouvoir. Elle va pactiser avec eux. Elle va les domestiquer et en faire des médiateurs, avoir la paix des populations par leur intermédiaire. D'où la création du Raï, qu'on va appeler après les Bnioui. Et ça, ça a continué. Et encore une fois, ça n'est pas propre à l'Algérie, toujours. Vous trouvez ce système absolument partout. Parce que l'accès à la langue arabe savante, l'accès à la littérature savante est extrêmement difficile et sociologiquement limité. Partout.